Bonjour, bienvenue dans la Terre à boire pour une émission un petit peu exceptionnelle. D'abord par rapport au lieu, puisqu'on se trouve au Cave Le Grand, qui est probablement dans une des plus belles galeries de Paris, la Galerie Vivienne. Et puis exceptionnelle aussi par rapport à son invité. Il arrive tout de suite, mais simplement c'était intéressant pour nous de le rencontrer, parce que c'est un petit peu la cristallisation de pas mal de rencontres qu'on a fait dernièrement, que ce soit David Lefebvre sur la minéralité, que ce soit avec Gabriel Lépouzé sur le cerveau, la dégustation, la salivation, que ce soit sur la biodynamie avec Ophélie Neyman et Bruno Queniou. Donc il est un petit peu la synthèse de tout ça, dans un vignoble et dans un territoire qui est en plein renouveau, qui s'appelle l'Alsace. Bonjour Olivier Umbrecht.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que vous êtes un petit peu connu comme leader ou gérant du domaine Zin Umbrecht, comme patron de Biodivin, l'association Biodynamie. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, pour entrer déjà dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a présidé à la création de Biodivin?
Alors, je n'ai pas eu la chance d'être membre fondateur. J'ai connu tous les vignerons qui ont créé Biodivin en 1995. Et je pense que c'était une volonté d'un petit groupe de très grands vignerons répartis sur la France entière pour discuter de problèmes et s'auto-former entre eux. Et principalement sous, l'égide, le suivi, l'aide de François Bouchet, qui était un biodynamiste de la première heure en France, et qui a aidé ce petit groupe à se fédérer autour de la biodynamie, de créer ce petit syndicat où les vignerons rentraient au début par cooptation, par parrainage. Et c'est comme ça que je suis rentré en 1998 dans ce groupe de vignerons.
D'accord. Quelle est je sais que vous en avez déjà parlé un petit peu lors d'une interview de la RVF, mais quelle est pour vous la spécificité de Biodivin par rapport à Déméter, par exemple?
Alors, tout d'abord, c'est un syndicat qui n'est composé que de vignerons. Et donc, quand on se retrouve, on va directement au sujet. On goûte du vin, on échange de problèmes, on essaye de résoudre des problèmes climatiques de l'année, on échange, on parle de matériel, c'est assez terre à terre. Mmh. Et parce qu'on est aussi là pour apprendre. Donc je dirais les grands axes de Biodivin aujourd'hui, c'est bien sûr tout d'abord la certification. C'est un passage, je dirais, un petit peu obligé de transparence, un contrôle qui est fait par Ecocert selon les cahiers des charges. Ensuite, c'est aussi, disons, une forme de communication, aussi bien interne qu'externe. Beaucoup de domaines qui rejoignent, qui sont acceptés dans Biodivin, ils ont peut-être aussi un besoin de se faire connaître, de participer à des dégustations. Et donc, il y a ce pôle, disons, où on va aller vers le public, faire connaître les vins. Et c'est là où on voit que le groupe est vraiment très très soudé, parce qu'il y a peut-être des vignerons qui n'ont peut-être pas besoin de faire ça, mais ils participent quand même, et ça aide aussi des vignerons qui sont peut-être dans des appellations un peu moins connues ou beaucoup plus jeunes et qui ont besoin de se faire connaître. Après, il y a aussi un pôle très important de formation interne où on organise des sessions des conférences, des sessions de formation, des cours. Il y a des mises en pratique de préparation de prépara biodynamique. On échange des expériences, on expérimente chacun de son côté et on partage tout ça entre nous. Donc beaucoup de gens sont aussi là pour apprendre.
D'accord. Ouais. Je crois qu'un certain nombre de vignerons sont à la fois Biodivin et Déméter.
Quelle est la
logique de ça, d'avoir la double certification ou...
Je ne veux pas répondre pour ceux qui sont chez Déméter, c'est toujours un petit peu peut-être ambigu, mais je pense qu'il y a aussi une certaine façon peut-être d'exprimer une aide à la biodynamie de façon générale, en participant à un groupe qui est beaucoup plus grand, parce qu'il recouvre, disons, tous les aspects de la biodynamie, pas simplement de la viticulture, mais de l'agriculture, des produits transformés, fromage, yaourt, lait, et ainsi de suite. C'est peut-être aussi parce que Déméter était bien sûr antérieur à Biodivin. Il y a aussi peut-être une reconnaissance de marque qui est plus générale. Donc le fait d'utiliser une marque Déméter est peut-être utile aussi à des vignerons qui ont besoin de d'être visibles dans un paysage beaucoup
Déméter plus. Déméter est peut-être un peu plus connu que Biodivin.
Dans le monde entier, oui, certainement, peut-être, oui.
Biodivin était plus un label de spécialiste, entre guillemets, voilà. En tout cas dans la perception et dans la compréhension.
Ouais. Ouais, ok, tout à fait.
Ok, très bien. Alors, bien sûr, on est dans une émission qui s'appelle la Terre à boire. La Terre à boire, il y a beaucoup de sens, je pense, dans ce mot-là. Et là, on étant au Cave Le Grand, on a qui a une belle liste de vos vins avec des millésimes qui ont quelques belles années. On a pu choisir deux vins et donc un premier vin qui est un Pinot Gris, hein, si je me trompe pas.
C'est exact. Pinot Gris de notre grand cru Rhinen. Mmh. Qui est situé au sud de l'Alsace, sur la commune de Thann. C'est un de nos terroirs emblématiques, extrêmement raides, sur des roches volcaniques. Alors, quand on parle de terre à boire, le volcan est capable de faire des vins qui ont beaucoup de goût et beaucoup de caractère.
Mmh. Tout à fait. Alors, et on parlait un petit peu en off, mais bon, il ne fallait pas parler en off, mais oui. Vous me disiez que... Donc là, on est sur un 2016.
C'est un millésime 2016, ouais. Une année qui était généreuse en Alsace. Un petit peu compliqué au printemps, mais on a quand même réussi à traverser les périodes de gel, de froid assez facilement. Année assez marquée par le mildiou aussi, mais pareil, l'Alsace a eu beaucoup de chance cette année-là, contrairement à 2021, je dis ça au passage. Et ensuite, on a eu une période extrêmement sèche pendant l'été et jusqu'à la fin des vendanges, et même ça a tiré bien en hiver. C'est un millésime qui a fait des vins élégants. Les raisins mûrissent lentement, ils ont des maturités de peau très accomplies. Et c'est un millésime aussi qui permet de faire des vins, alors j'utilise le mot moderne, mais pas dans le sens mauvais du terme, mais vraiment des vins qui correspondent à ce que les gens ont envie de boire aujourd'hui. Donc des vins qui ont du goût, de la saveur, qui ont...
Une certaine légèreté peut-être. Il y a quand même une tendance à la...
Oui, en finesse, je dirais, plutôt, des vins qui ont de la finesse. Un millésime qui permet d'obtenir des belles maturités, mais sans botrytis, sans pourriture noble, ce qui était souvent un petit peu le cas en Alsace dans le passé, où les vins riches avaient été marqués par la pourriture noble, donc des sucres résiduels plus importants et ce genre de choses.
C'est un peu ce qu'on reprochait de manière générale aux vins alsaciens, c'est d'avoir toujours un petit peu trop de... Oui. Alors, quand ils sont faits... peut-être pas de la bonne manière, on s'entend. Hein.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a, les vins moelleux, les vins liquoreux font partie des très grands vins de France. Si aujourd'hui, disons, les habitudes de consommation font qu'on en boit un petit peu moins, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même un des apanages de la région. Alors, le Pinot Gris est un cépage qui est compliqué chez nous. C'est pas pour rien que c'est le petit cousin du Pinot Noir. Donc, il a tous ses avantages et tous ses défauts. Ça peut faire des vins qui sont des très, très beaux marqueurs de terroir, qui ont une forme de discrétion, mais qui ont besoin de beaucoup de rigueur pour avoir du goût. Et donc c'est un cépage qui ne tolère pas du tout la médiocrité. Et pour vraiment le transcender, surtout en vin sec, il faut vraiment un grand terroir, une viticulture soignée et des volumes à la récolte qui sont très 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 faibles. C'est un cépage qui ne tolère pas un excès de raisin.
Quoi, à 20-25 hectos là sur
Si on est à 25 hectos en N, c'est une bonne récolte pour nous.
D'accord, okay. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut, on va le déguster Je crois que vous aimez bien l'approche, comme disait Jacques Rigaud, du gourmet, un petit peu géosensoriel pour employer les mots.
Oui,
est-ce qu'on peut essayer d'avoir cette approche pour le déguster, en parler ?
Bien sûr, tout à fait. Oui. Le Rhinen est un terroir qui marque surtout par sa longueur de bouche. Et c'est d'emblée ce que l'on ressent quand on goûte ce vin. Il occupe le palais, il occupe son territoire, il est extrêmement large. Il a une saveur extrêmement marquée en finale, et c'est le propre aussi des roches volcaniques, ce côté très salin qu'on va retrouver vraiment en finale de bouche, qui va amener à une salivation assez intense.
La salivation est en train d'arriver, voilà, mais c'est effectivement, c'est 10 secondes après l'avoir vu en bouche.
Et la signature aromatique, qui est quand même bien sûr là, je veux dire, il est normal qu'un vin, on le sente et qu'on apprécie également ses arômes, elle arrive tout doucement par ce côté fumé très caractéristique aussi de ce terroir, qui va vraiment en symbiose avec ce palais qui est assez large, assez volumineux. Ouais. C'est aussi un terroir, alors ça je le sais puisque c'est nous qui faisons le vin. Le gourmet dégustateur, lui, ne peut pas le savoir. C'est un terroir qui est puissant. Et donc, on le retrouve dans la fermentation du vin. C'est toujours un ferment qui est extrêmement violent. C'est le premier vin qui finit de fermenter en cave, alors que pourtant, on est habitué à avoir des vins qui fermentent sur 12 mois, des fois même un petit peu plus. Mais c'est toujours le premier vin qui termine sa fermentation en cave. C'était le cas en 2016, c'était le cas en 2021 par exemple.
Est-ce que ça veut dire qu'on a des levures spécifiques au Rangaine? Est-ce que ça veut dire que le terroir... Parce que si ça fermente vite, ça veut dire que les levures ont bien bossé. Donc elles sont présentes.
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on s'était dit ça effectivement. Et effectivement, dans la parcelle, on trouve des levures spécifiques au Rangaine. Mais une fois que le vin se retrouve en cave... Le melting pot est créé. Donc toutes les levures.
Parce qu'en cave, il y a des levures aussi.
Ouais. Sont mélangées. Il y a des levures en cave, il y a des levures sur les autres terroirs. Mmh. Tout est mélangé. Mais le Rangon a une structure de mou qui fait qu'il fermente très très vite par rapport à tous les autres vins de la cave. J'adore les fermentations qui durent très très longtemps. Ça amène de la complexité, de la longueur, de la suavité au vin. Et il y a un goût qui est beaucoup plus marqué. Mais là, c'est un terroir qui manifeste sa violence par cette fermentation qui est très 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 rapide. Après, il lui faut beaucoup de temps pour se mettre en place. Parce que c'est brut de décoffrage dès qu'il a fini de fermenter.
Il faut qu'il s'équilibre, qu'il stabilise.
C'est pas un vin qu'on met plutôt en bouteille à cause de ça, vous voyez. On le garde en élevage un an et demi quand même sur ses lits total pour que justement il puisse s'affiner. Autrement, c'est vraiment un morceau de caillou brut qu'on a en bouche, quoi. Ouais. Et le Pinot Gris est un cépage discret. Il n'est pas évident au niveau aromatique. C'est pas un cépage aromatique déjà pour commencer.
Donc il a besoin au Gewürz, par exemple.
Voilà, tout à fait. Ou le Riesling même. Donc il a besoin de cette signature de sol pour lui amener de la profondeur et du caractère.
Ouais. Très bien. Vous mangez quoi avec ça, vous, en Alsace?
Alors, le Pinot Gris, surtout dans sa version sec comme ce vin-là, est un vin qui est en fait assez versatile à table. Il est capable d'accompagner beaucoup de plats. Je dirais en Alsace, on a une cuisine qui est plutôt riche. On est un peu éloigné.
En tout cas sur les fondamentaux.
Voilà. Donc on va plutôt retrouver des plats un petit peu canailles, des rôtis de porc, de la volaille.
Une belle volaille là-dessus.
Voilà, oui. Des plats plutôt de viande blanche, je dirais, des rognons, ce genre de plats.
Pour revenir sur la géosensorielle, il y a cette notion, je crois, qui est importante, qui est pour reconnaître un terroir, il y a la salivation, et je crois que même dans la géosensorielle, en fonction de là où on salive, quand on est un grand dégustateur, on va dire ça comme ça, et un grand dégustateur géosensoriel, on peut dire, ah bah tiens, là, ça salive plutôt de ce côté-là, donc c'est plutôt des argiles, ça salive de ce côté-là, c'est plutôt des roches volcaniques. Est-ce que c'est possible de faire ça sur ce vin-là ou... Je trouve ça un petit peu magique hein, d'être capable d'identifier.
Disons, moi je ne vais pas forcément aussi loin que ça. Par contre, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de vins. Aussi bien les nôtres que beaucoup de vins qui sont faits avec honnêteté et transparence. À savoir, le vinificateur n'a pas cherché à altérer ou à modifier,
à masquer,
ou à corriger le vin. Là, je pense à toutes les techniques de rectification, d'addition qu'on peut trouver en cave. Mais c'est vrai que l'argile amène une sorte de souplesse au vin, une largeur, une épaisseur et un rendu très doux en bouche. Quand je dis doux, je ne parle pas de sucre. Je parle vraiment de... C'est plutôt velours que toile d'émeri en bouche. Et pourquoi ? Je ne sais pas. J'avais une fois un jour entendu Lydia et Claude Bourguignon dire que l'eau présente dans le raisin a la mémoire du sol qu'elle a traversé. Et donc, en traversant des couches d'argile, elle garde ce côté très soft au toucher, ce côté vraiment velours. Alors qu'au contraire, quand on est sur des structures très caillouteuses, comme une roche volcanique ou même une roche calcaire. Mmh. On va retrouver cette granulométrie dans le raisin qui va donner un aspect beaucoup plus croquant, ferme, mmh. avec un petit peu plus d'aspérité en bouche, un côté un peu plus piquant peut-être, qui va titiller certaines parties du palais de façon plus évidente qu'un vin qui sort d'une argile.
Mmh. Ouais. Oui, quitte à dire des choses assez basiques, c'est vrai qu'une pierre, le minéral, ça se touche plus que ça se goûte. Donc c'est vrai que c'est plus une expérience. Oui, oui. Si vous léchez une pierre, c'est plus se toucher qui vous...
Une pierre peut avoir un goût parce que on va... si vous sentez une pierre, très souvent, en la frottant, on réveille beaucoup de micro-organismes qui sont dessus. Donc en fait, c'est ça qu'on sent. Mmh, on sent la vie, en fait, quand on frotte des cailloux. Mmh. Et j'ai appris un mot, alors je vais pas me gêner pour le dire, le pétrichor. Je ne savais pas ce que c'était, ouais, j'ai regardé.
C'est Marc-André Sélos qui vous a...
Non, je ne sais plus où j'ai trouvé...
Oui, c'est l'odeur du sol après la pluie.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Oui, alors on peut se demander comment est-ce qu'un sol peut sentir, comment une pierre, un caillou peut sentir quelque chose quand il pleut dessus, puisque le minéral n'a pas d'odeur, mm-hmm. C'est bien connu. Mais en fait, l'eau va réveiller plein de micro-organismes qui se trouvent à la surface mm-hmm. des cailloux. Mm-hmm. Micro-organismes qu'on pourrait peut-être regarder, qu'on verrait, disons, avec un microscope ou une mm-hmm. forte loupe. Et c'est ça qui donne cette fameuse odeur. Mmh. Et après, au niveau du goût, je ne suis pas du genre à aller chez des cailloux, vraiment, mais disons, c'est effectivement, là, on va extraire, surtout avec l'acidité qu'on a dans notre salive, des sels minéraux de façon tout à fait classique qu'on peut ressentir. Et les cailloux, oui, ils ont des goûts différents.
Mmh. Très bien. Bon, je fais une boucle et je reviens... à la biodynamie, et encore une fois, vous en avez déjà parlé dans la RVF, mais qu'est-ce qu'a apporté la biodynamie, alors, un, au vin, et deux, à vous? Parce qu'il y a une dimension qu'on a abordée pas mal avec Ophélie Neyman, c'est dire, ok, on dit que ça apporte de l'équilibre, on dit que ça apporte de la minéralité, mais aussi d'un point de vue anthropologique, ça apporte du bonheur au vigneron. C'est-à-dire qu'il est, ça donne du sens, ça donne de la proximité avec, enfin, une reconnexion avec son terroir et puis la vie, tout simplement, hein, qui est dans, alors à la fois d'un point de vue vigne, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez que, alors, et pour vous, et pour la vigne, et pour le vin, la biodynamie a apporté?
Disons que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une évidence qu'une culture respectueuse, que ce soit en vigne ou autre culture, s'impose. Il faut qu'on soit capable de cultiver nos sols de façon pérenne et soutenable dans le futur. Donc on passe automatiquement par une forme de respect et disons le bio s'impose. Mais disons, le bio fonctionne quand on n'a pas de problème. Quand on est dans une nature et qu'on laisse faire la nature, il n'y a aucun problème. La vigne, elle, elle est cultivée. On la plante dans des endroits où elle n'aime pas pousser.
Mmh. Elle est contrainte par nature.
Elle est contrainte. Mmh. On la cultive. On lui force à faire des raisins quand ce n'est pas dans sa nature première, au niveau de la plante. On la bonsaïse, on l'empêche de se développer comme elle a vraiment envie. On la plante l'une à côté de l'autre, dans des sols de cailloux, alors qu'elle n'aime pas ça du tout. Et en plus, on l'oblige à faire du raisin pour faire du vin à la fin de l'année. Donc on la malmène quand même beaucoup. Donc pour moi, la biodynamie a surtout été au départ une forme d'agriculture, en plus du bio, qui permet d'apaiser tout cela et d'amener des messages à la plante pour...
ce que vous appelez des messages positifs par rapport à des messages négatifs.
Un peu la rassurer. Mmh. Comme une maman va peut-être rassurer son gamin le premier jour de l'école parce qu'il va être très stressé pour retourner voir sa maîtresse. Vous voyez. Donc c'est un petit peu la même attitude. Mmh. Et aussi, aujourd'hui, je dirais de façon assez brutale, tout est bon à prendre pour réussir à faire un bon vin. Vous voyez. Et la biodynamie apporte quand même d'autres solutions et apporte aussi une façon un peu plus efficace dans la guérison des problèmes. Guérison des problèmes, c'est pas forcément que de guérir une maladie qui est peut-être présente dans le vignoble, mais de contrebalancer un peu tout ce que aujourd'hui la nature reçoit qui ne fait pas partie de la nature. Vous voyez, pollution de l'air, de l'atmosphère, de la pluie, tout ce qui gravite autour d'une parcelle. Et ça, je pense que c'est très, très positif. Il est clair, je ne vais pas passer en revue au niveau agronomique et puis au niveau œnologique tout ce qu'on a pu voir comme
différence. Pour rappel, vous êtes un ingénieur agronome, pardon, plutôt, oui. plutôt allez, Soyons clairs, cartésien. Et œnologue, oui, et plutôt cartésien.
Moi, je suis très, très cartésien. Quand je comprends pas quelque chose, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Il y a encore des choses que je ne comprends pas en biodynamie. Et donc, je suis obligé d'utiliser un langage qui n'est pas un langage scientifique pour l'expliquer. D'une certaine façon, ça me dérange un petit peu. Mais avec le temps, j'ai appris à l'accepter. Vous voyez, et je sais qu'aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à tout expliquer. Donc en biodynamie, on va utiliser des mots un peu bizarres.
La dynamisation des préparats, déjà, c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur.
Oui, alors ça
par rapport au cartésien,
j'ai moins de problèmes. J'ai peut-être plus de problèmes quand on parle d'influence planétaire, par exemple. J'ai aucune idée si vraiment comment une planète peut influencer quelque chose sur la Terre. Il y a peut-être un élément physique, mécanique.
On parlait de la Lune et des marées, c'est difficilement mesurable et perceptible.
Mais aujourd'hui, j'accepte que on peut avoir des influences extrêmement peu quantifiables, voire à la limite du quantifiable, et avoir une réaction. Je l'accepte tout à fait. L'expliquer scientifiquement, on n'est pas toujours capable. Donc, quand je vois une plante qui a une capacité de fructification qui est énorme, comme de l'Aquilée millefeuille, je dis c'est Vénus. Je vois Vénus. Mais je ne sais pas dire si c'est Vénus qui influence mon Aquilée ou si c'est autre chose. Vous voyez ? Mais en tout cas, c'est une façon de décrire un mécanisme qui est voilà une plante qui sait fleurir correctement, contrairement à la vigne qui ne le fait pas. Donc on va en tirer des conséquences. Après, il y a quelque chose de très très important quand quelqu'un part dans la biodynamie et qui ne le fait pas que pour des raisons, de
marketing
et de vente et ainsi de suite, ou pour se placer dans un créneau.
Ce qui est le marketing, qui est pas un gros mot. On fait des vins pour les vendre, etc. Après, il faut pas que la forme dépasse le fond, quoi.
Quelle que soit la raison choisie par un de mes voisins pour passer en biodynamie ou en bio, ça m'est complètement égal. Je préfère un voisin à côté d'une de mes parcelles qui est en bio, en biodynamie, que quelqu'un qui va
des fongicides
juste à côté de moi. Donc ça. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais je pense que quelqu'un qui s'engage vraiment dans la biodynamie et qui cherche un peu à comprendre, qui est curieux, qui discute avec ses collègues, il va changer son attitude. Il va commencer à observer de façon très différente et il va surtout chercher à comprendre son terroir, son sol, la vigne, et changer sa façon de pratiquer. Vous voyez ?
Et puis, autant de ce qu'on a partagé, c'est un peu un basculement philosophique, c'est-à-dire que la biodynamie, c'est accepter l'idée que l'homme n'est pas maître de tout, quelque part. Enfin, au sens où, comme vous le disiez, il y a des influences qu'on ne maîtrise pas, et qu'il y a une partie d'abandon à la nature, je veux dire, en disant, par expérimentation, on se rapproche de la compréhension d'eux, mais qu'il y a une forme d'abandon, de se dire, le vigneron n'est pas un exploitant d'un sol, mais il est partie intégrante d'un tout. Et c'est un peu la perception qu'on a eue, c'est de dire, le somme des expériences fait qu'on voit que ça marche et qu'on s'améliore, au sens où on a une meilleure compréhension du sol, mais il y a un peu cette part d'abandon qui est de dire, nous ne sommes qu'un élément d'un tout, et finalement, c'est ce tout qui est, c'est peut-être là où les purs cartésiens, c'est philosophique comme opposition, je dirais, quand on critique la biodynamie par rapport, alors c'est vrai qu'il y a des choses, on a parlé des choses un peu ésotériques, on a parlé d'une précédente émission de Nicolas Joly, pas avec lui, mais de Nicolas Joly qui est, alors encore une fois, on ne sait pas bien s'il croit en son discours ou si c'est la partie marketing. C'est vrai qu'en tout cas, la posture qu'il a est assez, assez ésotérique par rapport aux sylphes, par rapport aux influences, par rapport aux ondes. Mais il y a quand même un basculement philosophique malgré tout de dire il y a une partie qu'on ne maîtrise pas et ce n'est pas grave puisque ça marche. C'est un peu la perception que j'en ai eue en parlant avec les différentes personnes qui font de la biodynamie.
En biodynamie, contrairement au bio, on est obligé de se poser des questions sur le vivant. Et là, c'est un petit peu comme essayer de comprendre la fin de l'univers. C'est quelque chose que l'être humain, que le cerveau humain n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, qu'on est capable de se déplacer, de penser, d'avoir des cycles, scientifiquement, on sait expliquer certains mécanismes chimiques, biochimiques et ainsi de suite, mais ce qui motive un être vivant, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Donc, par rapport à une plante aussi merveilleuse que la vigne, on utilise aujourd'hui un langage, on constate des choses, en pratiquant, par rapport au calendrier lunaire, par rapport à l'utilisation de plantes, de tisanes, de préparats, de dynamisation. Et on voit des différences, on voit des choses. Mais surtout, ça donne aussi aux vignerons des outils supplémentaires pour mieux comprendre ce qu'il fait et se remettre en question sur tout ce qu'il fait. À un moment donné, quand moi je suis passé en biodynamie, au début, on se dit, comment je vais faire pour ne pas avoir des vignes malades à la fin de l'année, premier point. Oui. Deuxième chose, comment faire pour en utiliser moins de tous les produits qu'on peut utiliser. Oui. Et ensuite, on se dit, maintenant, ça fait 20 ans que je rogne ma vigne chaque année à la fin du printemps. Comment est-ce que ma plante elle réagit à ça? Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime pas? Pourquoi est-ce que je le fais?
Oui, c'est d'être en écoute du végétal, voilà, et aussi, ouais, je pense, d'être beaucoup plus précis dans les traitements. C'est vrai que quand on est en pas bio, on a un problème de mildiou, on arrose tout. Mais peut-être que telle ou telle vigne, ou telle parcelle, ou telle peut réagir. Je crois qu'on a, on a un traitement plus. Ça permet un traitement plus précis, avec plus d'outils et plus de moyens.
Disons aujourd'hui, quand on raisonne comme ça. On rentre dans la grande précision de l'agriculture où, effectivement, je ne connais personne, aucun agriculteur, aucun viticulteur qui va utiliser un produit s'il n'a pas besoin de le faire. Et ça coûte cher, c'est du temps. Donc on fait une économie à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les aides extérieures à une exploitation sont énormes. Des modélisations, des algorithmes, des techniciens et ainsi de suite vont vous dire... Faites ci tel jour, mais pas ça, et là, et pas là, et ainsi de suite. On regarde les prévisions météo, et ainsi de suite. Ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gaspillent vraiment en traitement. Après, il y a la notion de prise de risque. Quel risque je prends en ne faisant que ça ou en ne faisant pas ça? Et à un moment donné, l'exploitant il va prendre des décisions à ce niveau-là, quoi. Comme tout chef d'entreprise. On accepte une certaine notion de risque, mais jusqu'à un certain point. Quand le risque est trop grand, on commence alors à tout arroser. Oui.
Tout à fait. Ok. On parle beaucoup de la vigne du végétal. Comment vous abordez la... Alors, c'est un thème qu'on n'a pas encore complètement abordé à la Terre à Boire, mais qu'on va bientôt aborder sur... le patrimoine génétique des vignes, la sélection massale, etc. etc. Partant d'un principe théoriquement assez vrai, qui est plus on a de diversité, plus on a un génome élargi, parce qu'il y a la notion de génome élargi entre la plante et les bactéries qui la composent, le microbe qui la compose. Nous-mêmes, humains, on a autant de microbes dans le corps que de cellules.
Donc 6 kilos.
Ouais, exactement. Donc on a un double, je dirais, génome. Comment vous arrivez à... est-ce que vous avez cette réflexion? Est-ce que vous menez cette réflexion par rapport à votre matériel végétal pour...
Oui. Depuis longtemps, mais avec les pauvres moyens du bord que l'on a, et c'est vrai que de travailler sur la sélection à ce niveau-là, au niveau d'exploitation, c'est on fait de notre mieux, mais on pourrait être un petit peu plus aidé, je pense, en viticulture. Donc il y a aujourd'hui des conservatoires qui se mettent en place, et ainsi de suite, et c'est très très important de préserver cette diversité. Après, je mets toutefois un petit bémol. Si certains cépages ou certains plants ont été oubliés, c'est qu'il y a peut-être il y avait une raison.
Monsieur.
Des fois, c'était une raison économique. Le plant ne produisait pas assez. Des fois, il était trop sensible à une maladie. Quelquefois, il faisait un vin qui ne correspondait plus au goût des personnes. Et je vous donne un exemple un peu par hasard. Vous savez qu'en Alsace, au XVIIe siècle, le cépage qui était le plus planté s'appelle le kniperlé en blanc. Et on a retrouvé dans une parcelle dans le Val de Villers, chez un vieux vigneron qui prétendait en avoir. Donc j'y suis allé avec Christophe Schneider, du service viticulture à l'INRA de Colmar. Effectivement, il avait du kniperlé dans sa parcelle. Donc on a réussi à retrouver une centaine de plants. J'en ai planté une centaine moi-même dans une de mes parcelles. Et j'ai compris pourquoi ce cépage avait été abandonné. Parce qu'il était mûr à 7-8 degrés potentiel. Après, il pourrissait très 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 vite. Une récolte de misère, mais très résistant. Donc il était peut-être adapté à une époque où il n'y avait pas de problème peut-être de maladies, disons, entre guillemets, cryptogamiques comme mildiou oidium qui sont venus beaucoup plus tard, ni de phylloxéra. Il faisait un vin adapté à la consommation de l'époque, donc les gens buvaient peut-être, 5 litres de vin par jour, mais seulement à 7 ou 8 degrés. Ils cherchaient quelque chose de plus léger, et aujourd'hui, je pense que ce serait un vin qui serait un peu décalé par rapport à la demande. Mais nous, on travaille sur le domaine avec des cépages importants, donc principalement Riesling et Vostraminer et Pinot Gris, et même Muscat aussi, parce que ça, c'est difficile à trouver en sélection massale, sur des sélections de nos propres vignes. Et ce qui est très intéressant, c'est que surtout sur un cépage comme le Riesling, qui est pour moi un très grand cépage, mais aussi c'est un cépage qui a la capacité de très résistant aux maladies virales. Cournouet, tout ça, il ne pose pas tellement de problèmes. Donc c'est de trier des plants qui nous donnent le raisin que l'on recherche, la maturité que l'on recherche, le goût que l'on recherche aujourd'hui par rapport à notre climat, mais des plants qui sont peut-être infestés de maladies virales, mais le plant ne l'exprime pas.
Donc en fait, voilà. C'est un antibiotique, quelque part il a résisté.
Donc on cherche des plants qui sont résistants aussi d'une certaine façon, vous voyez, à plein de problèmes. Donc c'est un travail qui est passionnant, qu'il faut faire. Au début, on l'a fait, c'était un peu une réaction aux clones qui souvent avaient été sélectionnés dans les années 70 ou avant sur des critères de quantité de raisin, de goût plus commercial, plus aromatique et ainsi de suite, qui aujourd'hui sont dépassés, qui ne fonctionnent plus.
Très bien, très clair. Alors, si ça vous en place, je vous demande de travailler un petit peu. Est-ce que ça ne vous dérange pas de servir le deuxième vin?
Oui. Juste,
voilà, il est là en fait. Oh, merci beaucoup. Et là, en dégustant ce vin, on va se poser une question qui est, est-ce que le vin d'Alsace est capable de bien vieillir? Alors c'est en fonction.
Donc, il s'agit d'un Gewürztraminer d'un lieu dit Klovinsbühl, sur la commune du Navire, dans le millésime 2000.
Mmh. Donc 21 ans. Ouais.
21 ans,
oui. Et en demi-bouteille.
En demi-bouteille. C'est un vin moelleux. Qui était marqué par l'année 2000, qui était très solaire, une année chaude,
ouais,
équilibrée en eau. C'était pas une année de sécheresse, beaucoup moins sèche que 2016, mais beaucoup plus chaude que 2016, et avec un développement de botrytis, pourriture noble, assez intense. C'est une année où l'Alsace a produit beaucoup de vendanges tardives, de sélection grain noble, par exemple. Voilà. Le Gewürztraminer est un cépage qui a besoin de beaucoup de maturité. Moi je dis toujours, le Gewürztraminer c'est un vin rouge qui se déguise sous un vin blanc moelleux. Mais il a toutes les caractéristiques d'un vin rouge, à savoir que les peaux mettent beaucoup de temps à mûrir.
Alors ce que vous disiez, c'est que la biodie a accéléré ce mûrissement, si je vous ai bien lu.
Oui, et ça j'ai pu le constater, les changements que l'on fait au vignoble, l'aide des préparats, l'aide des tisanes qui nous permettent de mieux déstresser la plante, on gagne un temps extrêmement précieux lors de la floraison, de la véraison, changement de couleur du raisin et ainsi de suite. Donc la vigne ne perd pas de temps, elle est extrêmement efficace dans son fonctionnement, ce qui permet d'avoir une maturité physiologique, peau, pépins, goût, beaucoup plus précoce que ce que nous on faisait avant. Ce qui offre aux vignerons un choix plus grand. C'est plus facile pour faire des vins secs si on ne veut pas attendre pour récolter trop tard. Si par contre l'année le permet et qu'on veut vendanger plus tard pour faire des vins moelleux ou des vins liquoreux, on peut également le faire si on juge qu'il y a l'équilibre qu'il faut dans le raisin. Quoi. Les années 2000, c'est encore les années où, disons, ce type de vin était en très très forte demande. D'où une vendange relativement tardive sur ce cru, qui en plus est un cru tardif qui est situé sur les hauts de la commune de Navire. C'est vraiment un clos qui, pour moi, est l'endroit le plus facile pour faire de la biodynamie, parce qu'il s'agit de 7 hectares de vignes d'un seul tenant, entourés de prairies, de forêts. On a un espace d'à peu près 35 hectares de vignes d'un seul tenant. Très, très peu de voisins directs, et ils sont tous en bio. Donc là, on peut faire courir des animaux, vous voyez, les moutons qui rentrent dans la vigne en hiver, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un îlot de culture assez isolé. On est sur un calcaire en Alsace, Muschelkalk, c'est une série géologique d'un nom français, Muschelkalk, mais qui est un peu, disons, unique à l'Alsace. En fait, on est dans le milieu du Trias, donc un calcaire assez brut, très caillouteux, peu d'argile, très riche en magnésie, et sur la hauteur du vignoble alsacien, donc ça mûrit très lentement.
D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et en tout cas, voilà, déjà la couleur, on voit le...
La couleur est liée à l'âge, mais aussi au cépage. Le Gewürztraminer fait des vins qui sont beaucoup plus colorés que les autres. C'est déjà un raisin d'une couleur rouge-orangé, un beau rouge-orangé assez brillant. des peaux extrêmement épaisses, le rapport jus-pellicule est faible, en fait, sur ce cépage. Donc, comme c'est des cépages qui ont besoin d'un temps d'extraction en vinification qui est beaucoup plus grand, il faut les presser lentement, longtemps, pour avoir à sortir bien les jus. Déjà, les jus, au départ, ils ont une couleur qui est beaucoup plus affaimée. Avec le temps, plus la présence de pourriture noble, on va vers des couleurs très or, paille, ambrée, voilà, voire même
c'est orangée, carrément ambrée, là.
Ouais, voilà.
Carrément, tout à fait. Ouais. Bon, que nous raconte ce vin?
Pour bien comprendre ce cépage, qui est quand même emblématique de notre région, il faut, disons, quitter
ces repères
traditionnels de vin blanc classique. Et surtout oublier aussi, quand on est sur des grands terroirs à adapter à ce cépage, ce côté très parfumerie, aromatique, rose.
Ouais, litchi, rose, voilà. Les standards aromatiques du Gewurztraminer.
C'est un cépage qui peut tomber très très vite dans le variétal, de par sa grande richesse aromatique, qui est à la fois son atout et son défaut. Lorsque le terroir donne vraiment sa marque sur le vin, déjà on doit retrouver une bouche qui est en élégance, c'est-à-dire que la richesse tannique doit être proportionnée à la puissance du vin. L'acidité n'est jamais très très importante sur le Gewurztraminer, mais il y a une espèce de synergie dans les grands terroirs qui fait que le peu d'acidité qu'on peut avoir dans ce vin-là. Et on retrouve ça dans beaucoup de grands blancs de terroirs chauds, comme par exemple sur l'Ermitage, dans des terroirs de ce type-là. Cette complexité tannique, riche en polyphénol, avec ce peu d'acidité et la trame du terroir, donne une bouche qui va être tout en assez carrée, bien bien organisée, et sans ce côté lourd, pesant, mollasson qu'on peut des fois avoir sur ce cépage-là.
Non, comment on le retrouve dans ce vin-là? C'est très équilibré, c'est très suave. Ouais. Après, c'est assez clair aussi, on va dire.
C'est un vin qui a pas mal de sucre résiduel.
Il y a un côté très miellé.
On doit être vraiment dans un vin moelleux riche. L'âge aidant, la trame du vin aidant, on a vraiment cette structure sur le haut du palais qui donne une colonne vertébrale. On les sent presque plus. On sent que tout est rentré en harmonie dans le vin. Il y a peut-être une petite marque au niveau de l'aromatique. On part vraiment bien sur l'épice. On oublie le côté rose, pétale et ainsi de suite. Le côté pot pourri un peu que peut avoir des fois ce cépage. Par contre, on sent une toute petite légère évolution sur le milieu de bouche qui est peut-être en fait plutôt la cause de la demi-bouteille sur un vin de 21 ans d'âge que vraiment le vin en lui-même. Mais bon, pour une demi-bouteille, il a très 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 bien évolué.
Bon, je trouve que c'est un vin encore très agréable et faut pas attendre 10 ans de plus, je pense.
Non, pour les bouteilles, oui, certainement, mais pas la demi. Elle est bonne à boire maintenant. Ouais.
Très bien. Donc oui, on est sûr. On a dit un Gewurztraminer 2000 et vous m'avez dit le terroir.
Klovinsbühl. C'est un clos historique qui a été créé par les Habsbourg, parce que c'est une propriété qui appartenait aux Habsbourg au XIVe siècle. C'était un relais de chasse pour eux, et on a retrouvé... la vigne a certainement dû y être plantée dès la création de cette propriété, puis on retrouve des traces écrites assez fournies à partir du XVIIe, XVIIIe siècle sur ce terroir.
Mmh. Et là, l'âge des vignes de Gewurztraminer sur ce clos?
Mon père a acquis ce terroir en 1987, et même à cette époque-là, l'ancien propriétaire ne se rappelait plus quand ça a été planté, vu ça a été greffé, vu l'aspect divine, on pense que c'était dû être planté dans les années 60, à notre avis.
Ouais. Donc entre 50 et 60 ans, quoi.
Oui, largement, oui.
D'accord, ok. Très bien. 60-70 même.
Ouais.
Très bien.
Ouais. Non, c'est un terroir qui a... une très belle histoire au cours des temps. Ouais.
Super. On a beaucoup parlé par définition d'Alsace. Comment vous voyez alors je dirais il y a un grand renouveau des terroirs. Il y a beaucoup de jeunes qui s'installent en Alsace. Il y a une approche biodi. On l'a vu avec nous pour avoir interviewé Christian Binaire, Vincent Flight, etc. C'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. Néanmoins, on a l'impression qu'au niveau de la vente, on a toujours On a toujours du mal à vendre les vins d'Alsace. Alors peut-être, j'imagine, à part les très très grands domaines hein, qui ont les Ostertag, les Zinnumbrecht ou autres Dice. Est-ce que vous constatez malgré tout hein, la fin du désamour, je vais dire ça comme ça, sur les vins d'Alsace ou pas encore? Et le cas échéant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre, bah, je dirais, les vins d'Alsace au cœur du jeu?
Si seulement je le savais.
Mais est-ce que il y a ce renouveau, il y a le renouveau des terroirs, il y a plein de jeunes, enfin ça bouge énormément en Alsace.
Oui, ça bouge beaucoup et c'est très très bien. C'est bien qu'il y a toujours une jeunesse qui est là pour reprendre l'exploitation. Une région meurt, disparaît quand les jeunes ne reprennent pas les domaines familiaux. Et là, oui, il y a des jeunes qui reprennent, mais il y a aussi des jeunes qui ne reprennent pas. Donc on assiste quand même depuis pas mal d'années maintenant à une diminution du nombre de vignerons dans la région, au profit de concentration de groupes beaucoup plus grands. Donc moi, je suis un tout petit peu, disons, anxieux quand je vois que 80% du volume du vin d'Alsace est produit par une quinzaine de maisons. Ça, c'est le côté qui me fait un petit peu peur. Après, on retrouvera effectivement beaucoup de jeunes qui ont des toutes petites exploitations. C'est malheureusement... la taille des exploitations ne leur permet pas, disons, d'être des ambassadeurs, de voyager beaucoup, d'aller aux quatre coins du monde et porter la bonne parole du vin d'Alsace. C'est plutôt un travail qui est fait par les très grandes maisons qui ne portent pas forcément le même message que
c'est la même image, oui. Plutôt, voilà. plutôt toujours ouais. plutôt le message du cépage par rapport au message du terroir, quand même.
Un peu, oui. Alors, le cépage en Alsace, il est, je dirais, quand même incontournable parce qu'on produit beaucoup de vins différents. Si nous avions une plus grande homogénéité de type de sol avec, disons, qu'un seul cépage en blanc et un en rouge, l'explication du vin serait beaucoup plus simple.
Comme en Bourgogne.
Par exemple, ouais, ça serait beaucoup plus simple. Et en plus à ça, vous rajoutez différences de style, sec, moelleux, et ainsi de suite. Il y a aujourd'hui différences de vinification. On retrouve beaucoup de vins sans intrants, des vins oranges, des vins de macération et ce genre de choses. Donc la lisibilité, la lecture du vin d'Alsace est compliquée pour le consommateur aujourd'hui, quant à savoir ce qu'il peut faire. Et je pense qu'il faut qu'on se recentre sur ce qu'on est capable de faire le mieux, et peut-être d'arrêter de produire tout et n'importe quoi dans tous les endroits, et de vraiment utiliser notre palais, de se dire dans tel lieu, c'est ce vin-là qui est grand, et de produire ce type de vin-là, quoi. Quitte à éliminer quelquefois certaines productions. Mais tant qu'on a cette complexité, cette diversité de produits, malheureusement, l'indication du cépage devient nécessaire. Surtout pour le consommateur qui va peut-être rechercher un signal facile à comprendre. Riesling Gewürz, tout le monde comprend. Clovis Bull, Rangen, c'est déjà un peu plus pointu. Oui.
C'est clair. Ouais. Pour avoir écouté M. Dice là, qui parlait sur le raisin et des papilles, il disait au final, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Enfin, en Alsace, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un modèle simple ou simplifié à minima de communication, et que c'est un peu dommage parce que on se tire des balles dans le pied, en tout cas à l'échelle du vignoble. Alors c'était il y a 2 ans. Est-ce que c'est un peu ça, à votre avis, qui fait que on n'arrive pas à aligner le message ou à donner un message clair sur des appellations?
Je pense sincèrement qu'aujourd'hui un vigneron qui produit un vin que le consommateur demande à boire, en Alsace, il arrive à le vendre relativement bien dans son segment où il se situe. Vous voyez, en fonction du prix, de sa notoriété, et ainsi de suite. Si c'est un grand cru ou pas. Mais l'Alsace, de par notre richesse historique, fait qu'on produit beaucoup de vins qui sont aujourd'hui plus tellement à la mode. Vous voyez ? Autant, moi, des Gewürztraminer, comme on vient de le goûter, sont des produits extraordinaires, mais on reste sur des vins vraiment de niche. Vous voyez, c'est un vin qu'on ne saura pas placer à tout moment de la journée. Il faut qu'il reste dans son petit coin, uniquement planté dans les grands terroirs. Et puis, les grands amateurs trouveront le moment pour le boire. Malheureusement, l'Alsace, aujourd'hui, produit trop de vins en grande quantité qui sont des vins de niche. En fait, soit de par leur style, moelleux, demi-sec, liquoreux, soit de par le caractère du vin, comme par exemple le Gewürztraminer. C'est pas un vin qu'on boit tous les jours,
non.
Mais une fois de temps en temps, on peut trouver le bon moment. Pour moi, ce Givers, là, maintenant, sur une tourte de volaille aux fruits secs, un peu épicé, très très bien. Vous voyez. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours.
C'est vrai que le côté fruits secs est en train de ressortir là, de manière merveilleuse.
Il faut que l'Alsace arrive aussi à trouver un style de vin. Il faut aussi, malgré tout, on a des terroirs qui sont capables de produire beaucoup de choses différentes. Certains terroirs sont très pointus et ne vont faire qu'un type de vin. D'autres,
sont plus versatiles, sont plus adaptables.
Oui, on peut aussi s'adapter. Et le terroir, c'est aussi l'influence de l'homme et de sa culture dans sa région. Vous voyez, c'est l'homme aussi, en fin de compte, qui décide qu'est-ce qu'il aime boire. Et comment ils veulent boire et quand ils veulent boire. Mmh. Et c'est clair que c'est peut-être difficile de faire du champagne dans le Languedoc, mais on peut faire des produits, sans être aussi extrêmes que ceux-là, qui sont adaptés à la demande de nos clients. Et ça, l'Alsace n'a pas été très très bonne pour suivre ce changement. Mmh. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup de jeunes vignerons aujourd'hui qui sortent des sentiers battus, voire qui sortent même des carcans de l'appellation pour produire un type de vin qu'ils ont envie de produire et qui est demandé par leurs clients à eux. Mmh. Oui. Mmh.
Et vous, donc, c'est vrai que ce Pinot Gris peut correspondre à cette nouvelle demande ou à cette nouvelle tendance?
Oui, il peut correspondre et je pense qu'il correspond. Sauf qu'on véhicule une image d'un cépage qui a souvent été récolté très moelleux, très riche, très liquoreux. Mmh. Des vins à boire en fin de repas, dans un repas tout à fait spécial, genre de repas qu'on fait nous deux fois par an. Et donc automatiquement, on a du mal à les gens, ils ont une image du vin qui ne correspond pas à la réalité.
Est-ce que l'export, enfin souvent les marchés export, l'Angleterre, les États-Unis ont un peu moins ces carcans-là. Ils sont souvent plus rapides à... On avait fait une émission sur la Savoie, c'est vrai que les vins de Savoie ont pris beaucoup d'ampleur, mais d'abord à New York, d'abord, où j'ai l'impression que la France est encore sur son quant à soi, on va dire, sur ces carcans-là. Et l'international, alors certains pays en particulier, le Japon, est-ce que vous le constatez, vous, par rapport à vos vins?
Oui, largement, oui. Oui. Mmh. Je pense que plus on s'éloigne de notre région... moins les gens, ils ont des a priori. Et donc, ils sont prêts à découvrir. Après, il faut qu'ils découvrent le vin aussi par la bonne bouteille, pas la mauvaise. Vous voyez. Et c'est peut-être là où... C'est pour cette raison-là que dans des marchés très lointains qu'on pourrait croire, disons, compliqués, y a les premiers vins qui sont en général exportés vers ce genre de pays. C'est souvent les grands domaines de la région, les grands producteurs qui montrent ce que l'Alsace est capable de faire le mieux. Et ça donne tout de suite une image de la région qui est très très positive. L'Alsace, malheureusement, a beaucoup vendu dans le passé, en France, dans le Grand Quart Nord-Est, et puis aussi un peu sur Paris, des vins qu'on ne savait pas exporter, pour plein de raisons différentes. Et donc ça a créé une image qu'on draine encore derrière nous, que vous connaissez malheureusement peut-être encore, de vins qui donnent mal à la tête, de petits vins blancs, des vins de comptoir, à boire en carafe dans un petit ballon, et ce genre de choses. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, quoi.
Ouais. Très, très, très bien. C'est quoi l'avenir du... On n'a pas parlé beaucoup du domaine. Enfin, on a bu des vins du domaine, bien évidemment. Donc, c'est 40 hectares avec plein de grands crus. Je crois que votre fils s'est formé chez Marie-Thérèse Chapaz, c'est ça?
Oui. Alors, l'avenir du domaine, bien sûr, c'est les jeunes, toujours.
Oui.
Donc effectivement, Pierre-Émile a rejoint le domaine en 2019. Et je dois avouer que pour un jeune vigneron, il a connu quelques années un peu compliquées, entre 2020 et 2021.
21, on parlera un petit peu du millésime 2021.
Compliqué au niveau, disons, moral, confinement et ainsi de suite. Compliqué au niveau climatique en 21 et tout ça. Mais bon, c'est formateur aussi. Oui, donc effectivement, il a travaillé une année entière chez Marie-Thérèse Chapaz en Suisse. Puis encore d'autres domaines en France, chez Stéphane Tissot, à la DRC.
Dans le Jura. À la DRC aussi, il fait un petit passage à la DRC. Okay. C'est vrai que le DRC est biodivin, ça ne se ferait pas. La DRC est biodivin, me semble-t-il.
Oui. Ouais.
Ok, donc l'avenir est assuré.
Oui. Le domaine est toujours en changement. Rien n'est statique. Mmh. Le, le monde viticole, il bouge constamment. On ne fait pas des très très grands changements d'une année sur l'autre, mais bon, il y a, quand on regarde en fait sur une période de 50 ans, on se rend compte à quel point on peut progresser, quoi.
Non, mais voilà, le problème, c'est que les bons vins, c'est du temps.
Oui,
le temps de la maturation, le temps de la transmission, le temps, et pour avoir des vins fins, c'est une question de temps en fait.
Ne serait-ce que de replanter une parcelle de vigne. Moi j'en suis aujourd'hui arrivé au stade où on a arraché quelques parcelles de vigne que moi-même j'ai plantées avec mon père au début des années 80. Des vignes qui n'auraient jamais dû être arrachées aujourd'hui, mais simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs. Des erreurs de choix de matériel, pas les bons plans qui nous plaisent aujourd'hui. Pas forcément les bons porte-greffes aussi, quelquefois, pas la bonne disposition peut-être au niveau de la parcelle. Et on arrache et on ne replante pas une vigne tous les ans.
Hein, donc ça fend un peu le cœur quand même quand on arrache.
Oui, parce que c'est une forme de constat d'échec. Alors je ne m'en veux pas parce qu'à ce moment-là, disons, on pensait bien faire, comme dans beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de constater qu'on a fait une erreur. Et d'accepter
et de la
corriger, quoi. Je pense que tout vigneron a une fois dans sa vie fait un choix technique qui n'était pas le bon, surtout quand il s'agit de planter une parcelle de vigne, la densité de plantation, le choix du porte-greffe, le choix du matériel végétal, et ainsi de suite. Le système de greffage, là aussi c'était le type de greffe qui ne fonctionnait pas, qui induisait beaucoup de problèmes de maladies du bois, ce genre de choses. Et donc tout ça mis ensemble, à un moment donné, il faut reconnaître que la parcelle ne fonctionne pas, on arrache, on replante, dès le début en biodynamie, parce que ça aussi, on le constate, une vigne qui est plantée avec la biodynamie, dans un sol qui est en biodynamie, a un développement qui n'est pas du tout comparable à une vigne plantée, disons, en conventionnel, dès le départ.
Oui, c'est clair. Après, voilà, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais enfin, on constate quand même que la vigne en biodynamie, ça permet la mycorhize, donc ça permet les champignons, donc ça permet d'élargir la surface de contact avec le sol. Si le sol est bien tenu, ça permet d'avoir plus de minéralité. Enfin, bon, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut constater quand même la réalité.
Non, ça, scientifiquement,
ça commence à être prouvé quand même.
Vous en parlez beaucoup, tout ça. Oui,
avoir d'ailleurs sur le site, il y a une très très belle annexe sur vin et minéralité que je vous invite. Alors, on n'a pas développé parce que je pense qu'on aurait fait une émission de 5 heures. Mais faut aller voir sur le site Zinnumbrecht, il y a un très très bel article ou une annexe, on pourrait dire ça comme ça, d'une dizaine de pages sur vin et minéralité, qui fait écho encore une fois à notre émission avec David Lefebvre, que je vous invite à rencontrer. Je pense que vous travaillez ou vous connaissez David Lefebvre.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Ses travaux sont passionnants.
Oui,
En guise de conclusion, quid du millésime 2021? Alors, pour avoir discuté avec quelques vignerons, encore un corin hier qui fait les équilibristes et qui s'appelle Florent Giraud, disait bon, il n'y a pas beaucoup de volume, mais en 2021, on a beaucoup bataillé, mais globalement, quand même, on a des super équilibres, on a des très beaux produits, alors avec deux fois moins de volume que ce qu'on espérait, mais on est quand même passé à travers les mailles du filet. Est-ce que c'est pareil pour le domaine Zinnumbrecht?
Oui, en gros, c'est ça, oui. On savait déjà que 2021, on n'allait pas avoir une fertilité aussi importante qu'en 2020. 2020, il y avait beaucoup d'années généreuses en volume, donc beaucoup de raisins. Donc automatiquement, la vigne n'a pas eu les mêmes messages pour produire plus de raisins cette année. On partait plutôt sur un volume de départ, disons, un peu style 2019, donc une année normale, sans plus. Gel le 7 avril, Diron a eu lieu 10 jours avant, donc petite pointe verte. On n'a pas vu tous les dégâts de gel à ce moment-là parce que c'était au cœur du bourgeon. Froid, humide, avril.
Donc pas trop de problèmes de coulure.
Patiné.
Pas trop de problèmes de coulure.
Non, mais plutôt des raisins qui ont filé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par filé, c'est-à-dire?
Vous savez qu'une vrille est un raisin avorté.
Non, mais vous me l'apprenez, mais j'en suis
sur une branche. Donc la vigne, quand elle est en mode végétal, quand elle est mercurienne, si je peux utiliser un mot biblique.
Allez, allons-y.
À ce stade-là, disons quand elle est dominée par l'élément eau, surtout quand il pleut beaucoup, le raisin a tendance à filer, à savoir le bout du raisin se retransforme en vrille. Et donc là, le raisin va perdre une grande partie de ses baies. Il va en fait avorter. Et on a un raisin qui est moitié raisin, moitié vrille. Et donc, d'où l'expression, ça part en vrille. Voilà. Et donc ça, déjà, ça a occasionné aussi une perte de récolte. Et après, de la pluie. Je crois j'ai vu des statistiques. Il y a eu seulement 9 jours où il n'a pas plu entre avril, mai et juin. entre mai, juin, juillet, pardon. Et ces fameux 9 jours où il ne pleuvait pas chaque mois, ben, tout est mouillé. Donc rentrer dans les parcelles, c'était compliqué. Mais bon, l'équipe s'est vraiment bien bataillée. On a, disons, après le gel, encore eu un peu de dégâts de mildiou. Et en gros, on a perdu à peu près la moitié de la récolte, donc on finit avec 23 hectolitres hectares de moyenne. Je pense qu'on a fait un bon travail pour sauver ce qui restait après le gel. On a évité l'écueil de l'oïdium plus tard en juillet. Après, il a fait très beau, surtout au mois de septembre, un temps sec la plupart du temps. Donc ça a permis aux raisins de quand même mûrir doucement, mais sûrement, et des très beaux équilibres d'acidité. Ça fait des jus qui ont beaucoup de caractère. Je pense qu'on aura des très 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 beaux vins en 2021, un peu moins que, disons, d'habitude.
Probablement pas de vendanges tardives et de...
Non.
La qualité ou la quantité n'est pas suffisante.
Oui, mais c'est pourtant un profil d'année où, et en plus avec le temps qu'il a encore fait là ces derniers jours, on était tenté de faire des vins de ce type-là. Mais là, je pense qu'il y a l'aspect culturel de l'époque, du moment, qui fait qu'on réfléchit à deux fois. Monsieur. J'ai le choix à faire un très très grand vin.
C'est presque un choix esthétique, mais c'est pas un choix mercantile, quoi.
Non. Bah, comme je l'ai dit en préambule, il faut la personne qui est en charge de la biodynamie sur un domaine, elle affronte quand même des peurs importantes, puisque on a une obligation de résultat. On emploie 25 personnes. Oh,
on est responsable.
Les domaines en biodynamie, ben, ils ont des fournisseurs, ils ont souvent beaucoup plus de main d'œuvre présente sur la propriété. C'est des salaires qu'il faut sortir tous les mois. Donc il faut que le résultat soit bon, c'est une chose. Mais il faut aussi qu'il permette l'exploitation de vivre. Donc le choix
qui est une équation économique aussi.
Est aussi importante, quoi.
Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu dans la Terre à Boire. C'était un moment très sympathique avec deux vins magnifiques. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Une transmission qui se passe bien, parce que je pense que c'est effectivement, comme vous le disiez, important pour vous et pour le vignoble d'Alsace.
Merci.
Et c'était une très belle rencontre et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'était super l'entretien. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Brecht. À bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est fini pour cette émission exceptionnelle de la Terre à Boire au Cave Le Grand, qu'on remercie encore une fois pour leur accueil, leur disponibilité. On se dit à bientôt avec d'autres émissions, d'autres invités prestigieux. Et quelque chose me dit qu'on va travailler autour du matériel végétal et puis des cépages hybrides et de tous ces sujets-là qui sont aussi au cœur de l'époque dans le vin et l'œnologie moderne. À très bientôt. Au revoir à tous.